Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus bref possible dans mon introduction, puisque nous avons invité dans le studio six personnes. Donc... Vous le savez tous, chères auditrices, chers auditeurs, que nous sommes ici dans cette émission qui traite exclusivement de l'abus de pouvoir et des injustices. C'est une émission qui, prête à l'appui, tente de vous sensibiliser principalement à ce phénomène qui prend de l'extension dans notre société. Un phénomène inquiétant, dangereux et qui propage d'ailleurs dans ces derniers temps, faut le préciser, au rythme d'une gangrène. L'abus de pouvoir, je viens de le mentionner, prend de plus en plus de l'ampleur dans notre société. Vous avez même dans l'image et les agissements abusifs du Premier ministre Jean Charest, un exemple clair qui nous démontre à quel point les choses se sont devenues graves. Abuser dont son pouvoir ou de son pouvoir est une chose et prendre la population quasiment entière pour des valises, c'est une autre chose. Influencer la majorité de la population par tous les moyens possibles, incluant des moyens illégaux, visant bien sûr le contrôle des raisonnements de la masse, tenter de divier le citoyen de la trajectoire d'une trajectoire spontanée de la pensée et, à mon avis, le pur abus de pouvoir qui peut être exercé contre un peuple. Alors, si Jean Charest gouverne le Québec aujourd'hui, la main libre, et si il est seul et unique à décider, à commander, à exécuter, et que ceux qui l'entourent n'ont pas le droit à la vie ni à la parole, c'est une forme de gouverner, une forme qui n'est pas étrangère d'ailleurs à l'histoire du peuple. Mais tenter de manipuler ses citoyens avec des images, des paroles, des sentiments, des regards, comme celle de cette publicité qui circule sur nos écrans, où Jean Charest se vante d'être le dieu suprême de la politique, Jean Charest avec une chemise blanche sur un fond blanc, presque tout est blanc, et essayer de nous dire qu'il est blanc comme de la neige, il n'a rien à se reprocher au moment où la commission Charbonneau relève justement que l'argent sale a permis de faire des élections. L'argent sale a porté des personnes au pouvoir, l'argent sale gouverne le Québec. L'enquête que Jean Charest n'a jamais voulu et qui a tout fait pour la repousser à plus tard vient de dévoiler une chose, une tache noire sur le blanc des libéraux, une tache parmi des centaines et des centaines d'autres. Alors, vous comprenez, chères auditrices, chers auditeurs, que nous ne sommes plus dans le temps propice de porter des chemises blanches et choisir de poser sur un fond blanc. Un gouvernement de corruption, de collusion, de répression et de honte, un gouvernement qui torture et bloque tout la voie aux jeunes de Québec vient sans gêne de nous dire dans cette publicité de honte qu'il s'agit pour le bien et l'intérêt de la prochaine génération. De quelle génération parle-t-il? Comme s'il y avait déjà, et il a déjà fini par celle-ci qui est devant nous aujourd'hui. Une publicité contradictoire, imposante, qui essaye en vain de faire du diable le bon Dieu. Jean Charest achève dans cette publicité de la honte pour nous dire qu'il a pris les bonnes décisions. Enfin, à la fin, et il va nous dire aussi, et moi, je sais tout. Cette réponse nous dévoile largement la ligne et le comportement de ce personnage. Un personnage qui n'a rien d'un homme sage, puisque les sages nous ont toujours répété depuis la création de la Terre que l'homme ne peut jamais confirmer son savoir. Dire aux gens, moi, je sais, ça relève d'une campagne de terreur. Autrement dit, si vous votez pas pour moi, moi qui sais tout, vous allez être dans des vrais problèmes. Alors, bien sûr, il y a énormément de choses à dire à propos de ce personnage qui, apparemment, il n'arrivera pas ou il n'arrivera facilement de se libérer de l'emprise du pouvoir, victime ou autre, c'est une question repoussée à plus tard. Alors aujourd'hui, je vais essayer je laisserai plutôt cette question à des étudiants qui sont devant moi dans le studio. On parle de Emmanuel Gauthier, qui est étudiant au département de philosophie de l'Université de Montréal, ainsi que Pierre-Olivier Bonin. C'est un étudiant aussi du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Je parle aussi de Julien Robertson, qui est toujours aussi étudiant à l'Université de Montréal, département de philosophie. Et à la fin, il y a Marc-Olivier Gagné, qui est département de philosophie. Ils sont tous des étudiants en maîtrise. Alors c'est à eux qu'on va céder la parole pour nous parler de cette crise qui ébranle le Québec de nos jours. Et en même temps, avant de passer la parole à ces jeunes étudiants qui sont devant moi, j'ai une invitée qui est juste à côté de moi. Il s'agit de Madame Cathy Doyen. Elle est venue ici vous adresser la parole directement pour vous dénoncer un agissement des agents de la SPVM. On parle d'une Madame Doyen. Bonjour d'être ici devant nous. Vous parlez plus précisément, vous reprochez à des enquêteurs de la SPVM de ne pas avoir vouloir prendre votre plainte, c'est ça?
Exactement.
Alors écoutez, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville. On va juste prendre une pause musicale. On va revenir avec notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer?
Alors voilà, bonjour, rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors je cède la parole directement à Madame
Cathy Doyen.
Vous êtes ici aujourd'hui parce que vous allez préciser, vous voulez passer un message aux citoyens, vous voulez aussi dénoncer un cas particulier qui vous concerne. Pouvez-vous nous dire en quelques mots comment ça a débuté cette histoire-là?
En fait, moi, j'ai vu je recherchais à m'acheter quelque chose vraiment à mon compte, là, un travail pour moi.
Oui.
Et puis, j'ai vu dans le journal à Montréal, dans les occasions d'affaires, une rubrique, là, rubrique 302.
Oui.
Il y avait des franchises à vendre sur le blanchiment des dents. Donc, c'était de l'esthétique dentaire. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup.
Oui.
J'ai téléphoné. J'ai parlé avec le vendeur, qui est Rodrigue Dugas, qui, il faut dire, entre parenthèses, un excellent vendeur, parce que c'est une compagnie qui s'appelle Extra Blanc. Et puis, le monsieur, il avait même pas de dents.
Elle est située où, là?
Il n'y avait même pas de dents. Et j'ai acheté quand même la franchise. Donc, je veux juste vous dire que c'est un excellent vendeur.
Mais vous avez mordu.
Ah, j'ai mordu comme 10 autres personnes, là, je veux dire.
Alors, précisez, oui. Donc,
moi, en fait, ça m'a été vendu comme l'esthétique dentaire au laser.
Ouais.
Donc, l'esthétique dentaire, quand on parle du blanchiment des dents, aujourd'hui, les dames, c'est les cils, l'épilation, la coupe rose et tout. Je veux dire, on est vraiment dans ce monde-là. Et donc, j'étais très intéressée. Ils me vendaient les appareils, 10 000 $ chaque appareil. Vu que c'était des lasers.
Oui.
Et puis, en fait, avec le temps, on s'est aperçu que les résultats attendus n'étaient vraiment pas ce qui m'avait été promis. Mmh. Ça m'avait été dit que ça avait été approuvé par Santé Canada, alors que ce n'était pas du tout non plus.
Pour vous, c'est le résultat qui est nul, c'est ça?
Les résultats étaient nuls, en fait, parce que les appareils, en fait, c'était des lumières LED.
Des LED. C'est-à-dire que par rapport au laser, le laser va projeter un faisceau, tandis que le LED, c'est une diode.
Oui, mais ça, on parle d'escroquerie, quoi.
Exactement, escroquerie, directement, parce que moi, l'appareil que j'ai acheté, elle a été falsifiée. Le nom du vrai fabricant sur l'appareil, c'était iBright.
Vous avez payé ça combien?
J'ai payé 10 000 $ chaque.
OK. Combien? Vous avez acheté combien?
Et puis, à 800 $ les machines.
Vous avez payé ça en tout? Ça
m'a coûté environ 125 000, je ne parle pas de dommages.
125 000 $, vous avez payé de votre poche.
Exactement.
Excellent.
Exactement.
Et après, vous avez...
Et après, j'ai consulté l'émission La Facture, ouais. Et puis j'essaye depuis...
Mais là, vous avez constaté que tout ça, c'était vraiment du...
C'était tout du boboche, une fausse représentation. En fait, je suis victime d'un dol, qu'on appelle.
Mais êtes-vous la seule ou il y a d'autres
Non, il y a peut-être une dizaine de personnes environ qui ont perdu en moyenne entre 75 et 100 000.
Vous avez, j'imagine, porté plainte collective ou une plainte personnelle?
J'ai porté plainte personnelle, ouais. Et puis les gens ont suivi à la suite. J'ai été au poste de police de Laval parce que j'avais signé mon contrat à Laval.
Oui.
Donc, à ce moment-là, l'émission La Facture était avec moi. Et puis, je crois que si l'émission n'était pas là, ils n'auraient même pas pris ma plainte. Parce que je lui ai dit, ils m'ont dit, non, fais pas ça ici, il faut que vous allez là. En tout cas, ils se lançaient la balle de poste de police à d'autres postes de police. T'sais. Et puis là, je suis allée. J'ai eu aussi des menaces de mort de la part du vendeur, Rodrigue Dugas. Et puis, il n'y a rien arrivé. Personne n'est allé l'arrêter.
Mais est-ce que vous avez des preuves comme quoi vous avez reçu des menaces de mort?
J'ai eu des menaces de mort au téléphone. Mais regardez, je vais vous dire une chose. Si vous êtes avec votre femme, vous, demain matin, et puis vous l'appelez, votre femme appelle la police en disant mon mari veut me tuer et tout, la police va être chez toi dans 5 minutes.
Ils vont prendre la parole.
Et lui, ça fait 2 ans et demi qu'il m'a fait des menaces, il n'y a pas personne qui est allé chez eux.
Mais 2 ans et demi, vous n'avez pas pris la peine d'enregistrer une menace, vous avez pas pu, pourquoi vous n'avez pas pris la peine?
Ben, en fait, c'est que j'ai eu seulement cette menace-là à ce moment-là, c'était durant le temps que j'étais pour passer à la télévision et puis pour faire connaître cette histoire-là. Parce que, faites attention, les auditeurs, auditrices, parce qu'ils ont encore des annonces d'un journal à la rubrique 302.
Jusqu'à présent?
Oui, éventuellement. Oui, oui. Puis moi, j'ai communiqué avec la police en disant, écoutez, c'est incroyable. Comment ça se fait que vous les arrêtez pas? Ils continuent de faire ça. Oui. Ils m'ont dit, écoutez, madame, on peut pas prévenir la fraude à venir. Nous, on s'occupe de votre cas. C'est, on peut mettre en parenthèse. Ils disent qu'ils s'en occupent.
Mais vous n'allez pas nous dire que vous avez perdu quand même 125 000 $
Et oui,
jour, complètement.
Et 125 000 $ dans la rue, j'ai eu un retour de 800 $ sur 125 000
Et le vendeur en question est toujours sur le marché.
Le vendeur en question et le propriétaire, Michel Larouche.
Oui, mais on a un problème là. N'oublions pas une chose, ils changent de nom régulièrement.
Ils changent de nom.
Alors maintenant, revenons s'il vous plaît, Madame Cathy, si vous me permettez. Revenons maintenant au poste de police. Là, vous allez, vous avez dénoncé...
En fait, j'ai dénoncé que l'appareil a été falsifié, la marque fabricant a été falsifiée, les autocollants ont été plantés là, et puis eux disent que c'est d'ordre civil et non criminel. Alors que si tu voles un pain sur une table et pour manger, parce qu'il y a des gens qui mangent pas, ben, tu vas avoir un dossier criminel. Cette personne-là falsifie un appareil qui est un Dell, me vendre ça au laser en me présentant vraiment au laser des résultats attendus au prix exorbitant.
Il n'est pas poursuivi.
Il n'est pas poursuivi. Oui. C'est pas un vol.
On pourrait vulgariser, vous achetez une Ford et vous l'appelez GM.
Exact.
Essayez de
le
faire.
Moi, j'ai 7 appareils présentement dans mon sol et puis je vais mettre une étiquette de rayon gamma, je vais les vendre 25 000 chaque, je vais les mettre dans le journal de Montréal et puis d'après moi, je ne devrais pas être criminel moi non plus.
Pouvez-vous me dire l'enquêteur qui a pris votre place?
C'est
Martin
Lavoie. Martin Lavoie,
c'est quel matricule? Avez-vous le matricule?
En fait, c'est le poste de police de Laval et puis son, la personne qui est en haut de lui, c'est Roger Genève.
Oui.
Ça, je pense, c'est comme son... Je sais pas,
supérieur. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit finalement? On prend pas de plainte?
Ils m'ont dit, madame, vous perdez votre temps. Vous aurez jamais vos sous là-dedans. Voyez-vous? Oui. Vous perdez votre temps. Et moi, je suis absolument sûre que ces gens-là sont arrangés avec Extra Blanc parce que vous savez, le bureau d'Extra Blanc qui était à la
base... Ça, c'est un petit peu difficile de dire.
Tu es juste au-dessous de la fraternité des policiers de Laval.
Ah, mais même à ça, là, vous poussez un petit peu trop.
Oh,
mais,
je voudrais qu'on répète ce vous dites...
Oui, le bureau d'Extra Blanc était juste au-dessus de la fraternité des policiers de Laval.
Oui, mais c'est pas une raison de...
Ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu une rencontre avec aussi le procureur de la Couronne.
Oui.
On a eu une espèce de caucus ensemble et puis elle me dit, elle aussi, elle est supposée d'être de mon côté, c'est procureur de la Couronne. Elle me dit, vous perdez votre temps, madame. Vous aurez jamais vos sous.
Oui.
C'est pas criminel, c'est d'ordre civil ce qu'ils ont fait. Ben, moi, ça me rend pas dans la tête de voir que c'est pas criminel cette histoire-là.
Oui.
C'est inimaginable, je trouve ça inconcevable.
Non, mais ce qui est un petit peu dangereux, si vous me permettez, c'est que vous n'êtes pas la seule.
Non.
Et le marché, jusqu'à présent, il continue.
Oui, il continue. Donc, ils vendent tout sur des nouveaux noms. C'est toujours personne... dans les chirurgies esthétiques, plastiques. C'est dangereux, là, ça. Là. Tu peux brûler des gens.
Mais est-ce qu'il y avait une enquête qui était menée au...
Écoutez, il y a une enquête qui a été faite. Moi, j'ai fait aussi une plainte à Escroquerie du Canada, fraude et Escroquerie du Canada. Il va sûrement y avoir une enquête au niveau fédéral là, sur Michel Larouche.
Oui.
Et puis en passant, Michel Larouche, qui est aussi propriétaire de la clinique d'esthétique Rosemère. Donc, vraiment pas une place à aller. C'est un fraudeur. C'est des fraudeurs qui ont cette compagnie-là. Sa femme est de connivence avec lui aussi.
Madame Côté-Doyen, j'aimerais bien prendre plus de temps avec vous, mais vous voyez que j'ai des autres invités devant moi qui m'empêchent un petit peu à continuer l'émission. Peut-être qu'on va revoir une deuxième fois pour essayer de dénoncer, parce que c'est important, ce que
vous
voulez
dire. Ça me fait plaisir, monsieur Dordonnet.
Oui. Et donc, voilà. Donc, je vous laisse. Avez-vous un message à passer aux citoyens aujourd'hui, de leur dire quoi?
Je vais vous dire, comme message en particulier, moi, j'ai fait affaire avec l'Ordre des franchiseurs, là, tu sais, en fait, et puis le Salon des franchises se dit numéro un dans la vente de franchises en référence. Oui. Ne faites pas confiance au Salon des franchises parce que, regardez, moi, j'ai investi 125 000 $ et ma vie est restée. C'est voilà. Ça mon message. Faites pas attention et puis investiguez beaucoup avant d'investir.
Chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite de rester à l'écoute. On va passer juste une petite pause musicale et on va revenir avec notre invité, la crise étudiante.
Chez moi, devait être 9h15 au soir. L'ami des décembre, en ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue sonne. J'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarre puis tourne à gauche. Je dirais que je rentre dans la ruelle, me stationner derrière la piole. J'chète dans mon rétro, qui que je vois pour la popo. De face, de banane, comme s'ils voulaient prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie.
Reste dans ton auto,
oui,
reste dans ton auto.
Mais qu'est-ce que
reste dans ton auto?
Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli. Mais pourrais-je me m'enquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte, on s'en café sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, c'est l'hiver qui fait fret. Je vais tenir un indice, présentement, il fait moins 10. Difficilement, elle acquiesce, mais bon, il fallait qu'il insiste. Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice. En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Je veux savoir pourquoi, first, c'est que tu connais pas. Mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas? Non. Connais-tu chaque citoyen de la ville? Non. Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond je sais pas trop. Profilage, la vie n'est fake avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions. Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme, prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça tu montes le dossier. Parce que souvent il s'excite, dès qu'il pense au sauton, va demander à Mixis ta face au pose sur le bouton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sont pris du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Il n'y a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps sucs. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatise et pop et plaque, je leur envoie le doigt majeur. Adepte de la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des brutiniens. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs, si jamais ça t'est familier. Si jamais ça t'est familier.
Je suis à l'abri.
Oh, oui, ok. Alors oui, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, comme je l'avais cité, donc j'ai devant moi j'ai Emmanuel Gauthier qui est étudiant au département de philosophie à l'Université de Montréal. J'ai aussi également Pierre Olivier Bonin qui est en sciences politiques, toujours en maîtrise. Hein, ouais. Université de Montréal, et j'ai Julien Robertson qui est en philosophie en maîtrise, et j'ai Marc-Olivier Gagné qui est en département de philosophie. C'est bon pour tout le monde. Alors d'abord, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'être ici aujourd'hui, et moi j'aimerais bien juste commencer par le fait que hier j'étais en train d'écouter l'émission de Denis Lévesque sur TVA, et j'entendais Maître François Vigeant qui disait que ça m'inquiétait un petit peu qu'ils disaient zéro pour l'appui de la population vis-à-vis à la crise, c'est-à-dire aux étudiants, au mouvement étudiant. Qu'est-ce que vous pensez de ces dires-là? Parce que moi, ça m'a complètement bouleversé, parce qu'il y avait quand même le 22, surtout aujourd'hui le 22, ça nous rappelle les 200 000 ou 300 000 personnes qui sont sorties dans la rue. C'était pas juste des étudiants, c'était des étudiants et de la population aussi.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui fait que maître justement François Vigeon et d'ailleurs et d'autres, il n'était pas le seul, de venir et de dire qu'il n'y a plus d'appui pour le mouvement étudiant?
0%, c'est complètement absurde, c'est un simple mensonge. Maintenant, pour ce qui est d'appui du mouvement étudiant, c'est vraiment très difficile à calculer. Les sondages sont vraiment pas fiables là-dessus, souvent même sont assez falsifiés. Pratiquement, c'est ça. Alors, mais en même temps, nous, c'est sûr que quand on marche dans la rue comme ça à tous les jours, quand on va aux manifestations, on a l'impression de jouir d'un immense soutien populaire.
Oui.
Alors que c'est quand même une minorité qui prend la rue, évidemment. Donc, c'est dur quand même de savoir à quel point on est appuyé par la population. Moi, j'ai l'impression que, bon, comme d'habitude, l'opinion de la population est assez volatile sur la question.
Oui. Je sais que vous êtes ici un peu partagé les idées. Je sais qu'il y a des gens qui sont carrés rouges, ça veut dire qu'ils sont pour
la grève
et d'autres qui sont contre la grève. Vous êtes contre la grève?
Ça
c'est vous c'est
Pierre-Olivier.
Pierre-Olivier Bonin.
Oui.
Vous êtes contre la grève. Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Oui, en fait, donc dès le départ, je croyais que ce serait pas un moyen effectif d'avoir gain de cause et d'obtenir des gains quant à nos revendications.
Oui.
Par la suite, il y a eu le 22 mars, la manifestation nationale.
Voilà.
J'y ai participé parce que donc j'étais à mon association étudiante, on a voté pour la grève,
oui.
Malgré tout, et je suis content finalement d'avoir participé à cette manifestation. Là, parce que j'ai constaté à quel point ça avait un effet important du point de vue de la visibilité médiatique.
Voilà.
Ça l'a propulsé le conflit étudiant à la une de tous les journaux.
Tout à fait.
Ça l'a mis l'enjeu de l'accessibilité aux études à la une et dans les priorités de tous les débats au Québec. Maintenant, pour ce qui est de l'opinion publique, je suis tout à fait en désaccord avec ce que mon collègue a dit tantôt.
Camarade.
Collègue. parce que pour moi, c'est assez clair que les sondages ne sont pas de la propagande. Ce sont des instruments de mesure scientifique. Certes, il y a des bémols à apporter. Il y a des questions qui sont posées sous un certain angle. Parfois, l'opinion publique aussi est très construite. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde au Québec qui a une opinion sur la question, mais quand on leur pose la question, ils sont obligés de répondre oui ou non. Et donc, ça nous donne une image grossière peut-être, okay. Parfois. Sauf que moi, je constate qu'il y a une grande tendance et que depuis le début de la grève, au début, c'était 60% en faveur du gouvernement, 40% en faveur des étudiants. À un moment donné, ça a augmenté un peu plus en faveur des étudiants. Et puis là, on a stagné. Je dirais que c'est environ 50-50, mais clairement, on peut pas clamer là, sur tous les toits qu'on a l'appui majoritaire de la population. Ça, c'est pas vrai. Mmh.
Mais Pierre-Olivier, vous êtes en train de dire, ça doit rejoindre l'idée de dire que presque la population, l'appui de population est tombé à zéro, c'est ça?
Non, c'est ça. Ça, c'est complètement erroné également, comme Julien le disait. Oui. C'est exagéré, ça.
Mais vous pensez que c'est ce recul-là, il est dû à quoi? Si je vous poserai la question, madame... Madame Gauthier.
Oui, je veux dire, évidemment, je ne peux pas le savoir. Par contre, peut-être un autre élément...
Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne sentez pas que le gouvernement pousse trop pour... je dirais pas manipuler, mais moi je peux le permettre, mais je sais pas si vous voulez le permettre, que le gouvernement fait tout pour essayer de faire reculer, vous comprenez, la voie étudiante, et finalement qu'aujourd'hui on se sent un petit peu
recul. De là à dire qu'on est rendu avec 0% d'appui, c'est farfelu.
Mais je pense que le gouvernement a vraiment essayé de salir l'image. Le gouvernement et les médias ont vraiment essayé de salir l'image.
Il n'essaye pas, moi je pense qu'il l'a fait.
Je dirais que
Marc-Olivier,
Monsieur Gagné, exact. Je dirais là-dessus qu'il fallait être vigilant dès le départ. Moi, j'ai vu, ça paraît un peu immodeste de dire ça, mais j'ai vu dès le départ la possible manipulation du gouvernement.
Ouais.
à son pour son propre intérêt, justement, de faire des levées de boucliers de la part des groupes de pression, parce que ça, dans la population, ça passe toujours très bien pour, au nom de la classe moyenne, de faire lever les boucliers de certains groupes de pression et tout ça. Alors moi, j'avais vu dès le début, et c'est pour cette raison-là, entre autres, que j'étais contre la grève, j'avais vu dès le début que ça serait possible pour le gouvernement de s'emparer de cette cause-là à son avantage. Ah, voilà, c'est ce qu'on voit maintenant. D'ailleurs, je suis désolé d'apprendre ça à vos auditeurs, mais parce que, en tout cas, moi, je suis pas un fan du tout de Jean Charest, mais je crois qu'il va être réélu. Il va probablement être élu parce que tous les scandales
Il ne faut pas parler de cette façon-là. Je m'excuse, là. Il y a une façon de parler politique, là. On ne dit pas il sera réélu. Nous verrons s'il sera réélu. Mais je préfère, écoutez, je m'excuse, là. Château fort, libéral. C'est de la connerie, ça, là. En politique, il n'y a pas de
chance. Je pense que personne qui peut prédire l'avenir politique. Puis les prochaines élections promettent d'être assez serrées. Par contre, ce qu'on sait, jusqu'à présent, par contre, je m'inscrirai en faux. On a parlé beaucoup d'opinion publique et c'est vrai que c'est une donne qui est extrêmement importante quand on mène une lutte comme celle qu'on mène présentement. Par contre, l'opinion publique, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'opinion publique a pas mal toujours historiquement été contre les progrès sociaux. Les droits des homosexuels, les droits des femmes, les droits des minorités ethniques et les droits des étudiants aussi, comme présentement. Je veux dire, ça a toujours été le fait d'une minorité qui s'est battue pour ces droits-là. Et présentement, oui, c'est vrai qu'on a besoin de l'appui populaire, mais on n'a pas nécessairement besoin de l'appui de tout le monde. Ce qu'on a aussi besoin, c'est d'avoir un rapport de force avec le gouvernement. Et ça, la grève nous a permis de l'avoir. Et moi, je pense que la grève présente est, jusqu'à un certain point, une réussite parce que la crise dans laquelle le Québec se plonge présentement, et particulièrement le monde de l'éducation, c'est-à-dire les professeurs et les gestionnaires d'universités et de cégep, s'arrachent les cheveux présentement et ils voudront plus jamais vivre ça. Et il n'y a plus aucun gouvernement qui va pouvoir se permettre de faire perdurer une crise sociale comme ce qui se passe présentement.
Tout à fait. Mais si j'adresserai à Marc-Olivier Gagné, s'il n'y a pas de manifestation, comment voulez-vous que les étudiants arrivent à porter leur voix.
Oui, mais en fait, il peut y en avoir, mais il ne faut pas que ça interfère presque pas là, avec les intérêts de cette classe moyenne-là. Vous posiez la question tantôt, qu'est-ce qui fait que la population s'est retournée contre un mouvement étudiant, dans un certain sens? Ben, c'est qu'ils ont senti leur propre intérêt brimé. Exemple, en allant travailler le matin, le pont est bloqué. Bon, pour nous, c'est peut-être assez banal. Il y en a qui vont me dire qu'en France, c'est chose assez commune. Mais pour cette personne-là qui va arriver en retard, qui va perdre une partie de son salaire à cause de l'étudiant, eh bien voilà, on vient de la perdre à notre cause. Donc, c'est ce genre de choses.
C'est mesquin que de penser comme ça, parce qu'il faut penser à une chose. Écoutez bien, c'est simple. On paye un gouvernement, on le paye, ce gouvernement-là, pour siéger, pour négocier, pour faire son travail. Il ne le fait pas. Alors, on a le droit, nous, en tant que citoyens payeurs de taxes, de dire au gouvernement, assois-toi avec ce monde-là et jase avec ce monde-là, arrange-toi, sortez en entente, mais sortez en entente et finissez cette grève. Il n'a négligé, il ne s'est pas assis, sa tête de cochon, il faut le dire, il a une tête de cochon, ce gars-là, il veut rien savoir, il veut pas négocier.
Excusez-moi, pardon, je vais poser la question à Pierre-Olivier Bonin. Si, par exemple, prendre cette mesure-là, que nous sommes d'accord ou pas d'accord, par exemple, bloquer un pont, bloquer un pont pour une heure ou une demi-heure et bloquer toute la voie d'une génération, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est pas un moyen pour dire à la population, écoutez, vous pouvez aussi faire votre part, sentir un petit peu que les sensibiliser, un moyen de sensibilisation?
Ok, qu'est-ce que vous voulez dire bloquer la voie d'une génération?
Non, je dirais, écoutez là,
c'est-à-dire que vous voyez derrière notre combat le combat d'une génération?
Ben tout à fait, vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire que les étudiants aujourd'hui qui demandent le gel des frais de scolarité, ce n'est pas juste pour vous, c'est pour tous les ceux qui viennent après vous, vous comprenez? Ce n'est pas une question qui vous concerne vous seulement, mais ça concerne d'autres générations qui viennent aussi.
Mais je pense que la question qui se pose ici présentement, c'est qu'il y a des gens, la majorité des gens, je crois, dans la population, aussi dans le mouvement étudiant, considère que, qu'on soit pour ou contre la cause étudiante, bloquer un pont n'est pas un bon moyen de le faire.
Je suis d'accord. C'est pas un bon moyen. Mais si ça se fait, par exemple, est-ce que c'est pas un moyen pour dire aussi, s'ils ont pas trop... Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais si ça arrive, ça veut pas dire que c'est un signal pour dire qu'il y a un problème aux autres.
C'est toujours la même classe qui n'est pas représentée, qui subit...
Tout à fait.
les multiples le groupe de pression, toujours. D'un côté, on leur demande, et puis là, je suis pas en train de dire que je suis pour la hausse, aucunement, là, mais il faut voir la perspective de ces gens-là, c'est qu'ils se disent, non seulement je dois payer leur hausse, je dois payer, c'est ça, leur hausse qu'ils ne veulent pas et qu'ils me refilent la facture, mais en plus, ils m'empêchent d'aller travailler le matin. Donc, c'est comme toujours le même groupe qui subit les conséquences de nos actes collectifs. Et ces gens-là ne sont pas représentés. La classe moyenne n'est jamais...
Madame Emmanuel Gauthier,
oui. Je pense que c'est comme ces gens, il y a certaines personnes de ce groupe-là que tu parles qui, en fait, peut-être justement vont être d'accord avec la cause étudiante, mais ils vont être en désaccord avec les moyens, un peu comme, dans le fond, deux qui sont en désaccord avec la grève, mais qui sont... on s'entend tous pour dire qu'on est contre la hausse. Mais justement, ce que les sondages ne permettent pas, c'est ces nuances-là de dire en quoi consiste l'appui ou le non-appui. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y a même pas cette nuance-là de dire, ben, qu'est-ce qu'on n'appuie pas au juste, comme les moyens de pression, là, tels que bloquer le pont, ce qui n'est même pas unanime parmi les étudiants de toute manière.
Mais peut-être que je repose aussi à Emmanuel Gauthier, voilà, la même question. Est-ce que ce n'est pas derrière ça, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas le gouvernement qui a une main derrière ça, c'est-à-dire pousser les étudiants à arriver à ce stade-là?
C'est de la manipulation.
Ouais. Je veux pas faire le procès d'intention. Je sais pas c'est quoi les intentions du gouvernement.
Pas les intentions, non, j'ai loin de ça. C'est-à-dire, quand on pousse quelqu'un, c'est à l'irréparable. C'est comme, vous me suivez un petit peu ce que je dis. C'est-à-dire, c'est comme il y a une part du gouvernement aussi derrière.
Ouais, moi, comme je l'ai dit, je suis sûr que c'était orchestré, c'était voulu. C'est machiavélique.
Encore plus,
c'est machiavélique.
C'est voulu. Moi, je partage pas cet avis-là. Moi, je pense que.
Olivier Bouvard, oui, choisis.
Moi, je pense que le gouvernement libéral a vraiment certaines idées qui relèvent de son idéologie. Et ça s'inscrivait simplement en continuité avec son programme. Et il avait annoncé il y a déjà quelques années, puis on pouvait voir ça venir. Puis il l'avait fait aussi en 2005. C'était un...
Excuse-moi.
Quand il avait... Non, c'était au programme de Brézébourg.
Excuse-moi.
Si vous l'entendez parler comme ça, on sent qu'il est en train de blanchir le gouvernement.
Non, pas du tout.
Mais si je peux juste...
C'est pas de sa faute, c'est une responsabilité partagée. Je pense qu'il y a une responsabilité du gouvernement qui n'a pas vraiment écouté assez. Il a pris beaucoup trop de temps avant d'aller s'asseoir avec les étudiants dans une table de négociation. Ça, c'est clair, il aurait dû faire ça dès le départ. Puis écoutez, on a vu avec les coûts que ça a engendré aussi, ça l'a dépassé largement les coûts de la hausse. Ce que ça va rapporter, ça coûte plus cher de toutes les manifestations, les policiers, puis tout ça. Alors ça, c'est une aberration. Il aurait dû prévoir ça d'avance, puis dire, bon, on va peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin, mais là, c'est à cause qu'il y a des considérations électoralistes derrière ça aussi. Alors pour eux, c'est plus payant, peut-être, de dire non aux étudiants, quitte à dépenser beaucoup d'argent dans les forces policières qui vont encadrer les manifestations, mais au moins de tenir leur point, puis c'est ça qu'ils ont fait. Puis je pense que ça leur a bien servi jusqu'à date, parce qu'on a vu dans les sondages, encore une fois, d'opinion publique, que les intentions de vote montaient avec... La durée de la grève pour les libéraux, et ça leur a été profitable. Maintenant, ça devrait changer un peu puisque depuis la loi 78.
Ne parlons pas de sondage. C'est archi faux. C'est de la manipulation, c'est du trafic.
Mais c'est une manipulation
efficace. Que vous avez entendu de la corruption servent justement à amener des sondages soi-disant que le gouvernement est gagnant. Écoutez, partout où je vais, tout le monde le fout dehors.
Mais Roland, excuse-moi, les sondages là, pourquoi? Parce que les firmes de sondage, il cible aussi une certaine population pour le sondage. Pour ça,
non. Les firmes de sondage, c'est-à-dire qu'ils prennent un échantillon de plus de 1000 personnes aléatoirement, c'est-à-dire que n'importe qui dans la population pourrait être appelé, et ça constitue des résultats qui sont représentatifs et généralisables à la population québécoise. C'est ça qui fait
ça dépend. Il y a des sondages qui sont non probabilistes qui ont été utilisés à outrance.
Mais les gros, sondages autrement.
Surtout dans la question, la façon dont on pose la question. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps la façon dont on pose la question. Êtes-vous contre le fait d'être bloqué le matin dans le trafic?
Excuse-moi, Roland.
D'être bloqué dans le trafic 2 heures quand il fait chaud au soleil? Êtes-vous contre le fait de ça et donc contre la cause étudiante? Vous voyez, ça, c'est le genre de question qu'on peut entendre. Puis d'un autre côté, ça serait, êtes-vous pour la vertu et la justice sociale, l'égalité entre les peuples et la justice à travers le monde? C'est un peu la même question posée de deux façons différentes.
On est tous coupables du même délit, c'est-à-dire que eux,
ils présentent ça sous un angle qui leur est favorable. C'est-à-dire qu'ils disent que, bon, on a une augmentation. C'est quoi, c'est 3 $ par jour, c'est ça qu'ils ont dit?
50
sous par jour. Alors, ça, c'est une manière de le présenter. Nous, ce qu'on dit, c'est complètement l'opposé. On dit que c'est 82% d'augmentation par jour. Alors, c'est noir puis c'est blanc.
Juste une minute. Moi, je voudrais amener quelque chose. Combien que vous allez avoir de dettes en sortant de votre université? C'est ça qui est important. 35 000, 40 000,
50 30 000. Des étudiants québécois n'ont zéro dette. L'autre 50% ont environ 15 000 $ de dette.
Ouais. Mais, ça, c'est des moyennes. Donc, il y en a qui sont de base de 15 000, donc ont beaucoup
30 000, certains 35 000 même.
Mais ça, un autre problème qu'il y a eu avec ce débat-là, c'est qu'on utilise beaucoup les moyennes, alors que la moyenne, c'est Olivier et moi, on a eu un cours de méthode quantitative ensemble. Et je veux dire, les sondages, effectivement, on leur fait dire après ce qu'on veut. La moyenne, c'est une mesure indicative, mais ça, c'est pas nécessairement représentatif de la réalité. C'est pas tous les étudiants qui ont 15 000 $ de dette. Il y en a qui en ont 20, 25, 30, il y en a qui en ont 5, 2. Mais pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Pierre-Olivier, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'attitude du gouvernement en 2012 et l'attitude du gouvernement en 2005. Il y a eu de nombreuses grèves étudiantes dans l'histoire du Québec. Et de tout temps, le gouvernement a toujours accepté de négocier. Et le gouvernement a toujours reconnu la légitimité du mouvement étudiant, des associations étudiantes et la légitimité de la grève. Et le gouvernement a toujours appelé ça une grève. Oui. 2012, c'est un... En tout cas, les libéraux ont essayé de faire un tournant marquant dans l'histoire du Québec en changeant le vocabulaire, en changeant la façon de concevoir une grève étudiante, en appelant ça un boycott et en mettant en place des lois qui allaient en faire un boycott et non une grève. Et ça, pour moi, c'est particulièrement...
Mais en même temps, moi, je veux juste dire, puis je me fais un peu l'avocat du diable.
Mais vas-y, oui.
Mais c'est le fait, justement, que les étudiants ne veulent pas que leur université soit traitée comme une entreprise ou une PME, puis qu'on soit comme des employés. Mais paradoxalement, on s'imagine qu'on est des employés représentés par un syndicat, puis qu'on a le droit de faire la grève. Comprenez-vous?
Oui. Justement,
pour moi, ça me dérange. Ça, c'est plus un droit de représentativité. Mais dans ce cas-là, on peut pas empêcher les gens d'aller à leur cours.
Justement, en fait, je pense que... Je veux dire, le monde de l'éducation, c'est un monde en soi. Ça ne veut pas être parfaitement comparable au monde du travail, au monde de la consommation. Le problème qu'on a, nous, en tant qu'étudiants, c'est que là, présentement, le gouvernement libéral et les médias, la population générale, malheureusement, parce que c'est une idéologie qui est très répandue, nous considèrent comme des clients. On est des consommateurs.
Tout à fait, oui.
Ce qui est, en tout cas, ce qui est selon moi, est pernicieux. Alors que nous, on se considère plutôt, oui, jusqu'à un certain point, pas totalement, mais comparable à des travailleurs. Nous sommes des producteurs de savoir. Tu le sais, comme moi, on a fait le même bac, la même maîtrise, c'est du travail en sacrament.
Tout à fait.
Puis, je veux dire, pour un salaire de crève-faim, on s'entend, là, la plupart d'entre nous travaillent au salaire minimum, avec les prêts et bourses, ça nous revient à la moitié de ce qu'on gagne. Donc, on travaille fort pour quelque chose qui est utile socialement, on produit du savoir, on crée une société qui est mieux éduquée, qui est plus harmonieuse. Et en cela, on considère qu'on a le droit de défendre nos intérêts, de les faire représenter
par une association.
En cela, je crois que des associations étudiantes se comparent presque parfaitement à un syndicat de travailleurs et qui devraient jouir des mêmes droits et de la même reconnaissance.
Roland, vous voulez dire quelque chose?
N'oublions pas une chose, qu'il y a la recherche et le développement aussi qu'on fait dans les universités. Et ça rapporte des milliards au gouvernement. N'est-ce pas? Alors ça, vous êtes des employés dans le fond du gouvernement. Vous faites du travail pour des entreprises qui avant avaient la charge de faire la recherche et développement, et aujourd'hui on confie ça aux universités. C'est intelligent dans un certain sens, mais ça rapporte au gouvernement. Il ne faut pas oublier ça. Vous êtes des employés,
Je voulais dire,
je suis d'accord avec toi, on a un droit de représentativité puis de représentation, ça c'est correct. Mon seul point, c'est qu'un syndicat dans la vie civile là, peut, par la formule REN, empêcher des étudiants d'aller à leur cours sous prétexte que c'est dans l'intérêt du groupe comme collectivité et que s'il y en a qui vont travailler, bon, ben ça détruit tout le mouvement et en ce sens-là, ça marche pas. Moi, c'est ce qui m'a fait débarquer un peu de la grève, mais qui fait que je suis quand même contre la hausse, là. Mais c'est le fait, justement, qu'on instrumentalise ça d'une façon à ce que les gens qui veulent aller à leur cours ne puissent pas y aller, comme des employés qui voudraient aller travailler ne pourraient pas y aller légitimement dans le cas du travail. Mais je vois pas, moi, alors, pourquoi j'aurais payé mes cours, mais que je me saignerais pour ne pas y aller.
Pour la même raison qu'un travailleur qui fait partie d'un syndicat ne peut pas rentrer.
Oui, mais lui est compensé par son syndicat. Mais c'est ça la petite différence.
Aussi, c'est que vous avez une association. Donc, vous avez un droit d'association. Donc, vous avez le respect d'une association. Je m'excuse, si vous faites partie d'une association, vous devez respecter cette association. Si le monde vote en majorité, vous devez respecter la majorité. Mais le gouvernement s'est servi pour diviser les étudiants. C'est une manipulation malhonnête, très malhonnête, et un mauvais exemple de montrer à des jeunes gens comme vous. Je m'excuse, le gouvernement est coupable, et je lui ferai jamais de cadeau.
Pierre-Olivier,
si je peux rajouter quelque chose, moi je pense que de toute manière, dans le cas de ce dont on discutait, le bloquer les cours et tout ça, moi j'ai eu l'expérience dans mon association étudiante de voir une solidarité exceptionnelle, et puis même une fois que la loi 78 et une fois que les injonctions, c'est ça, ont été émises par la Cour, eh bien, les gens ne se sont pas présentés au cours, même si on n'avait pas de ligne de piquetage.
Je suis d'accord, mais dans certains départements, ça n'a pas été le cas.
Il y a même eu un cégep, je crois que c'était Richelieu, mais je ne suis pas sûr, sur la Rive-Sud, où est-ce que c'est des carrés verts qui avait été à l'Assemblée générale, il avait voté contre la grève avait été reconduite, il y avait une injonction, et ce sont des carrés verts qui sont pointés pour piqueter devant le cégep. Parce qu'ils disaient, on est contre la grève, mais on va respecter la décision de notre association étudiante. Ça, c'est fort. Ça, c'est quand les étudiants de cégep sont plus, manifestent plus d'esprit démocratique que le gouvernement, c'est vraiment fort.
Puis, en fait, cette solidarité-là, en fait, c'est ce qui risque de jouer. La seule arme qui va nous rester contre la loi 78, en fait, au retour en mi-août, au début septembre, là, parce que là, on n'aura plus le droit, en fait, de faire des lignes de piquetage à toute fin pratique. Oui. Donc, c'est vraiment cette solidarité-là, si elle est encore aussi forte, qui va pouvoir faire perdurer la grève.
Oui, effectivement, mais le problème, excusez-moi.
Je vous en prie, vas-y.
Mais le problème, c'est ça, c'est que, bon, oui, effectivement, on n'a jamais eu le droit de piqueter, c'est ça l'affaire. Mm. Ça a toujours été toléré, ça a toujours été accepté. Légalement, les associations étudiantes n'ont jamais joui des droits dont les syndicats jouissent, mais ça a toujours été respecté comme si, sauf en 2012. Et en 2012, il y a eu du piquetage, il y a eu des injonctions, il y a eu, l'Université de Montréal était pratiquement
les injonctions,
sauf que là, le problème, c'est qu'avec la loi 78, qu'on va pouvoir retourner en classe au mois d'août, et que si la grève n'est pas finie d'ici là, si la crise n'est pas réglée, on va peut-être essayer de faire du piquetage encore. Sauf que là, c'est non seulement 5 000 $ d'amende par individu qui piquette, mais en plus, le gouvernement, l'université se donne le droit de couper les vives de l'association étudiante qui piquette, et de donner des amendes personnelles pouvant aller jusqu'à 35 000 $ aux exécutants des associations étudiantes, sous le simple prétexte qu'il y a des membres de leur association qui font du piquetage. Ouais. C'est complètement aberrant. Et là, il va vraiment falloir que le mouvement étudiant trouve le moyen de contourner cette loi-là pour continuer le mouvement si ce n'est pas réglé au mois d'août.
Roland, tu voulais juste quelque chose?
Oui, moi, il y a une chose que je n'admettrai jamais qu'un gouvernement puisse passer une loi comme ça. J'ai dit que c'est un gouvernement lâche. Pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi. Un gouvernement qui sait gouverner n'a pas besoin de passer des lois afin de faire respecter ses ententes à lui et ses façons de voir les choses. Quand un gouvernement commence à vous dire que pour la Saint-Jean-Baptiste, je ne veux pas voir tel orchestre, à ce moment-là, on vous impose une musique même. C'est grave. On appelle ça dictature chez moi.
Mais avant peut-être de passer à une pause musicale, j'aimerais bien juste poser une question à Pierre-Olivier Bovin. Si par exemple, on parle de solidarité, votre collègue Emmanuel Gauthier parle de solidarité et tout. Si aujourd'hui, le 22, on aura 200 000 dans les rues de Montréal, qu'est-ce que vous allez dire?
Ah, moi, personnellement, je suis devenu un peu cynique.
Non, parce que là, attendons, au départ, on a parlé de zéro, là, puis zéro de la population. Si aujourd'hui, la preuve sera le contraire, on aura 200 000 ou 250 000, vous allez dire quoi?
Moi, je vais dire bravo, premièrement. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'aujourd'hui, il y ait autant de gens en deuxième lieu. Et puis, je pense que c'est pas parce que... C'est plate à dire, là, puis je suis désolé de le dire, mais c'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes dans les rues à Montréal que ça représente une grosse
majorité.
Un gros appui significatif de la population, parce que à Montréal on est quelques 2 millions d'habitants.
Ouais, mais c'est pas tout le monde qui va sortir, et la solidarité, même s'ils sont pas dehors, le fait de voir 200 000 personnes, c'est quand même signe important.
J'en serais très content si ça arrive aujourd'hui. Simplement, c'est arrivé le 22 mars, c'est arrivé le 22
simplement,
mai.
Simplement, vous êtes pas sûr.
Non, mais simplement, j'allais dire, ça l'a pas changer grand chose. C'est ça qui est dommage.
Ça, je suis d'accord.
C'est ça qui est dommage.
On va juste faire une petite
casserole.
Roland, on va faire une.
D'où,
madame, Emmanuel, on prendra juste une petite pause musicale, on va revenir. Très bref.
Nos grands-parents, ils n'ont jamais eu les moyens, n'ont jamais eu le luxe de penser librement. On est tenu pour un petit pain, c'est ce qu'aimait bien nous faire croire nos prédateurs. À ce temps que nos chefs mangent dans leurs mains, on n'a plus le choix pour mettre les pendules.
Donc voilà, on va reprendre notre émission d'aujourd'hui, l'émission des mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. J'ai avec moi toujours Madame Emmanuelle Gauthier, qui étudie à l'Université de Montréal, Monsieur Pierre-Olivier Bonin, et j'ai Julien Robertson, c'est ça ?
C'est ça.
Et j'ai Marc-Olivier Gagné.
Ouais.
Donc on reprend un petit peu la discussion, mais un peu plus vite, parce que vous voyez que le temps, et on n'a pas beaucoup de temps. Je reprends avec vous, si vous me permettez, M. Gagné.
Ouais.
Vous parlez un petit peu de la mauvaise gestion des universités qui cause aussi un problème.
Oui, c'est ça. Moi, je suis contre la hausse et contre la grève, mais surtout contre la hausse pour cette raison-là.
Ouais.
Parce que justement, je sais que dès qu'on leur donne un dollar ou quoi que ce soit de plus, tout ça va se transformer soit en bureaucratie inutile, soit en rond de cuir, justement, des bureaucrates inutiles, ou ça va être géré par des gens qui n'ont aucune vision, des gens qui ont... Excusez-moi.
Mais... Aucune vision, c'est pas un petit peu trop, un mot trop...
Ben, qui ont une vision purement économique, justement,
voilà,
d'université.
Précis.
Ils n'ont pas de vision à long terme pour faire rayonner l'université, autrement que par la méthode classique là, des classements universitaires dans le monde, ces petits trucs-là. Là.
Ouais.
Mais vraiment de faire rayonner la connaissance dans le monde, puis d'utiliser chaque sou que je leur donne. Ça, je leur fais pas confiance, je suis désolé. Donc, je suis contre la hausse parce que je sais qu'ils vont gaspiller totalement mon argent.
Comme Hydro Voyageur, par exemple, qu'on a mis en vente là, afin d'enlever les preuves du détournement de fonds qui ont été faites là-dedans. 500 millions, le contracteur a été obligé de prendre la moitié de la construction pour se payer. Il n'a pas fini les travaux.
Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi personnellement, être contre la hausse et contre la grève, je trouve ça un petit peu aberrant, parce que le seul moyen qui peut être mis en place pour contrer cette hausse-là, c'est justement la grève étudiante. On en parlait tout à l'heure. Il y a des manifestations présentes. Ben, je veux dire, les manifestations sont pas... Non, c'est pas le lendemain du 22 mars ou du 22 avril ou du 22 mai, les mêmes ou même pas aujourd'hui du 22 juin, que ça va changer les choses du jour au lendemain. Par contre, ça va montrer un appui populaire, ça va montrer qu'il y a un mouvement social, et je veux dire, ça fait partie d'une stratégie qui est plus globale. Mais Emmanuel, tu avais quelque chose à dire tout à l'heure là-dessus?
Oui, mais juste, en fait, dans le même ordre d'idée, je trouve un peu incohérent, en fait, mais là, c'est peut-être parce qu'il me manque un point là, dans votre position d'être contre la grève et... contre la hausse, c'est que si, en fait, on pense qu'une manifestation de 200 000 personnes n'a pas tant d'impact que ça, mais comment est-ce qu'on peut penser que la grève n'est pas un bon moyen de pression?
Ça, c'est pas la grève, ça, c'est une manifestation. La grève,
oui,
c'est de
ne
pas aller au cours alors que tu as payé.
Voilà.
Moi, c'est ça qui ne marche pas. En quoi ça met une pression contre le gouvernement que je paye mes cours, mais que je n'y aille pas? Comment ne paye-les pas tes cours tant qu'à y être là? Je comprends pas le point.
Mais
de manifester dans la rue comme on invite les gens à le faire aujourd'hui, moi je suis 100% pour. C'est une belle démonstration de force, justement. Je ne veux surtout pas m'opposer à ce beau mouvement collectif-là. Mais de ne pas aller au cours alors que tu les as payés, je vois pas en quoi ça met une pression sur le gouvernement. Au contraire, la seule pression que ça met, c'est est-ce que je vais avoir pitié comme gouvernement de ces martyrs-là qui se s'automutilent sur la place
Et pour la première fois de l'histoire du Québec, on nous a répété dès le début de la grève. Moi, je tiens à amener ce point-là. On nous répétait sans cesse il n'y aura pas d'annulation de cours. C'est jamais arrivé dans l'histoire.
Il y en a pas eu.
Oui, il y en a eu à certains cégeps. Et puis, des suspensions. Puis, il y a eu des coûts extrêmement élevés.
Non, je m'excuse. Les cours ont été suspendus. Ils n'ont pas été annulés. Et la situation qu'on vit présentement, je veux dire, le Québec ne voudra plus jamais revivre ça. Les institutions d'enseignement universitaire et collégial sont dans la marge jusqu'au cou. Je veux dire, ils sont obligés de reprendre les cours de cet hiver à l'automne, de reporter la session d'automne jusqu'à l'hiver prochain, de reporter la session d'hiver prochain.
Mais le gouvernement est content. Le gouvernement est content, il va être élu.
Le gouvernement n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il y a les syndicats de professeurs qui sont sur son dos, qui sont en tabarnak. Non, parce que les syndicats de professeurs vont demander à être payés en surplus parce qu'ils vont faire du temps supplémentaire.
C'est pas eux qui payent, c'est la collectivité.
Ils ont les directeurs d'université, les directions de cégep qui sont contre eux autres, qui sont sur leur dos parce qu'ils veulent plus vivre cette situation-là. Et en plus, ils ont également le conseil du patronat, qui attend les prochains employés qui sont supposés être diplômés bientôt, puis va être obligé d'attendre encore des mois avant que ces gens-là arrivent sur le marché du travail. Et évidemment, le gouvernement mange dans la main du conseil du patronat. Et tous ces gens-là sont sur le dos du gouvernement présentement pour leur dire ceci ne doit plus jamais arriver. Et les prochaines grèves étudiantes du Québec, parce qu'il va y en avoir d'autres, vont avoir cet argument-là.
Ben,
le
moi,
scénario
c'est le
2012 ne se répétera pas.
Margaret Thatcher en Angleterre s'est maintenue grâce à ça, cette stratégie-là de faire les levées de boucliers et puis d'avoir l'air de la dame forte qui prône l'intérêt à long terme, même si ça déplaît aux collectivités qui se déplacent dans la rue contre ça. Moi, je comprends là, tout ce que tu me dis, que ça cause plein de problèmes puis tout ça, mais politiquement, ce que tu me dis, c'est de la philo. Mais politiquement, c'est non. Payant de faire ce que Charest fait.
Non, donc, il va là, je te fais une démonstration. Parce que
je pense que le conseil du patronat nous défend à l'heure actuelle. Je trouve que tu mets le doigt dans l'œil.
Je dis pas qu'il nous défend.
Mais c'est un peu ça que tu dis, parce que tu dis qu'il met de la pression sur le gouvernement pour plus jamais que ça arrive. C'est un peu comme s'il nous appuyait, ça. Là. Moi, je m'excuse, mais les coûts de cette grève-là, c'est pas la collectivité québécoise dans son entièreté qui les assume. Ce sont les étudiants. Puis moi, je connais plein d'étudiants dont la vie a été assez bouleversée par cette grève-là. Ils ont vu leur stage annulé. On a tous écopé de coûts très élevés parce que ne serait-ce que terminer sa session un ou deux mois après l'heure prévue, ben ça engendre deux mois de salaire à temps plein perdu. Et puis plus que là. Moi, je pense que si on pourrait peut-être recentrer le débat sur la vraie question de fond. Là, moi, je pense que la question de fond, c'est pas la hausse. Parce que dès le départ, on a posé cette question-là, on s'est dit on est contre la hausse. Mais en fait, l'enjeu de fond, c'est l'accessibilité aux études. C'est ça qui sur quoi on devrait miser. Et puis là-dessus, là, on a tenté de négocier trois fois et on a manqué des sacrées belles opportunités de régler la question, pas dans son entièreté, mais de faire un compromis au moins, parce que on a vu que avant le budget, là, il y avait le point mort des droits de scolarité, là, c'est-à-dire le point où la gratuité est effective. C'était de 34 531 pour un revenu de ménage. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tu gagnes ça, toutes tes bourses, là, ils annulent tes coûts de droits de scolarité. Avec le budget, ensuite, ça a été monté à 41 000. Et avec la bonification proposée le 27 avril, ça a été monté à 51 000. Et ça couvrait entre 40 et 50 de tous les ménages québécois.
Cet argument-là que le gouvernement nous sort souvent et les médias aussi, comme quoi le système des prêts et bourses pallierait aux inégalités sociales et à l'accès à l'éducation, c'est complètement faux. Pourquoi? Il y a une excellente raison à ça. C'est parce que le système des prêts et bourses fonctionne mal. Entre autres choses, parce que ça prend en considération la contribution parentale. Or, tout le monde sait très bien que chaque situation familiale est différente. Il y a des parents très riches qui ne contribuent pas. Il y a des parents très pauvres qui contribuent beaucoup. Tu as des enfants de familles très riches dont les parents contribuent, mais qui se sont mariés, donc ils sont considérés indépendants. C'est complètement absurde, le système de prêts et bourses. Il y a une seule bonne façon de redistribuer la richesse dans une société, c'est d'imposer les riches, de taxer la richesse et de la redistribuer en fournissant des services équitables à tout le monde. Moi, tout l'argument de Richard Martineau qu'on devrait faire payer plus de préscolarité aux plus riches et moins aux plus pauvres.
C'est ça qui arrive avec les impôts. C'est un principe de progressivité que tu es prêt à accepter pour les impôts, mais pas pour les droits de scolarité.
Je pense effectivement qu'au niveau de la société, tu taxes des gens qui sont très très riches, des grosses fortunes, et tu utilises cet argent-là pour financer des services publics, c'est-à-dire accès à tous égalitaires. Ça, c'est un bon système. Par contre, à partir du moment où est-ce que tu calcules... les étudiants sont très généralement pauvres, on s'entend, ils n'ont pas de gros revenus. Là, tu prends en considération le revenu de leurs parents, mais comme je le disais tout à l'heure, chaque situation est particulière. Tu peux pas calculer ça, c'est juste
impossible. Justement, Julien, je pense que tu as raison là-dessus. Là. On devrait faire un peu tabula rasa par rapport aux situations antérieures, à l'histoire personnelle de chaque étudiant, et dire... Chaque étudiant, peu importe sa situation, a le droit à tant de prêts, tant de bourses, et ces montants-là devraient théoriquement permettre à l'étudiant, à n'importe quel étudiant, donc, de faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire étudier puis sortir avec un diplôme. Mais de là à dire qu'il faut la gratuité, mur à mur, un espèce de programme universel comme on fait, à mon avis, un peu trop souvent au Québec, je suis pas certain, tu sais. J'aimerais mieux un système de prêts et bourses, moi. auxquels tout le monde aurait droit et non pas juste quelques privilégiés qui ont réussi à souffler entre les mailles du système bureaucratique.
N'oubliez pas une chose, vous êtes jeune et lorsque vous allez commencer à vivre normalement, c'est-à-dire à travailler, eh bien, vous ne pourrez pas non plus vous endetter parce qu'on commence à vous empêcher de vous endetter à Ottawa. Alors, on commence à ranger ça, inquiétez-vous pas. Vous n'allez pas pouvoir vous marier parce que vous ne pourrez pas prendre de responsabilité parce que vous aurez une dette.
Ça, c'est Roland. Donc, on va passer à Emmanuel Gauthier. Excuse-moi, Roland. Aujourd'hui, il y a une grande manifestation. On souhaite. Qu'est-ce que vous avez à dire aux étudiants qui vous écoutent aujourd'hui?
De ne pas lâcher. Puis merci de ne pas lâcher. Je pense que c'est l'essentiel du message.
Pierre-Olivier Bonin.
Aux manifestants?
Ouais, qui vont sortir aujourd'hui.
Lâchez pas, moi, j'ai pas votre optimiste et votre optimisme. Non, c'est ça. Faut pas qu'on devienne cynique malgré tout. Ouais. Mais seulement, je pense que là, on est rendu à un point où ça va se régler par les élections.
Marc-Olivier, pas bravo, hein? Marc-Olivier?
Ben, moi, ça ressemble à ça. Je veux dire, bravo à ceux qui se déplacent aujourd'hui. Je les encourage à se déplacer. D'ailleurs, c'est une belle façon de montrer d'une façon non violente et pacifiste ce qu'on veut. Et puis d'ailleurs, pourquoi on n'irait pas plus loin et on ferait pas des espèces de, je sais pas, des corvées de ruelles ou je sais pas quoi pour aller encore plus loin qu'être neutre et pacifiste? On pourrait être généreux et aller encore plus loin et on aura encore plus la faveur populaire en ce cas-là.
Mais n'oubliez pas que vous votez contre Machiavel. Machiavel moins intelligent.
Dernier mot peut-être pour Julien. Vous avez quelque chose à dire aujourd'hui aux auditeurs, surtout aux étudiants qui vous écoutent.
Ben, en fait, manifestation tout à l'heure à la Place du Canada à 14h. J'espère vous y voir en grand nombre. Ça va être la quatrième grande manifestation. On en fait une à tous les mois. Et il faut vraiment montrer au gouvernement et à la population que le mouvement ne s'essouffle pas, qu'au contraire, on va continuer la lutte. Et aussi, on a beaucoup parlé, Pierre-Olivier parlait d'élection, on a beaucoup parlé d'opinion populaire. Oui, c'est important, mais c'est pas seulement ça. Faut se rappeler aussi qu'un mouvement de changement politique, ça se fait toujours par une minorité de gens qui sont motivés puis qui travaillent fort. Puis on va continuer cet été, puis on va continuer cet automne si c'est pas réglé.
Merci, Julien. Donc, sur ça, on va vous dire, je vous remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette émission aujourd'hui. Et je remercie Mme Suzanne Chartron d'avoir été veiller sur le son. Merci à mon collègue Roland Cazès. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, d'être à l'écoute. Et je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet. Au revoir.
Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matin, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matin, 8 à 9.
Le samedi 23 juin, le regroupement Ivoiro-Canadien invite toute la population d'Aountik à venir fêter la fête nationale du Québec. La fête se déroulera au 2574 rue Fleury-Est, de 10h à 18h. Il y aura des clowns, des ateliers de maquillage et de dessin pour enfants. Il y aura des spectacles du Québec, de Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'humour et du slam. Au menu, des barbecues et des hot dogs et des breuvages à prix modique. En cas de pluie, l'événement est remis au lendemain, le dimanche 24 juin.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, tagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. La musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.